France Culture, à voix nue, avec Pierre Michon, par Colette Fellous. Troisième chapitre, une violente liberté. Et si nous continuons, Pierre Michon, à parler comme ça de beaux endormis, je me souviens qu'hier, c'était le fil conducteur presque de notre entretien, ce poème de Hugo, et qui est aussi donc dans Corps du roi, votre dernier livre, un de vos derniers livres, parce qu'il y a aussi Abbé qui vient de sortir. Et je me disais qu'en fait, vous aviez souvent cette liberté qui est la vôtre dans l'écriture, cette violente liberté, comme vous l'appelez souvent, vient aussi d'appui comme ça dans la littérature, d'autres textes et de scènes, de moments que vous captez. On avait évoqué aussi ce moment de Flaubert, hein, qui venait de finir la première partie de Madame Bovary et que vous avez attrapé. On sent que vous allez les regarder
encore,
comme ça.
Deux moments encore plus ponctuels qui sont le moment où, je ne sais plus comment s'appelle ce photographe turc, photographie Beckett.
Oui, et le moment le livre s'ouvre là-dessus
américain, d'ailleurs. Photographie Faulkner. Oui. C'est...
Le livre s'ouvre sur la photographie de Beckett et se referme sur la photographie de Faulkner.
Oui, c'est-à-dire que ce sont des livres, enfin, je vais vous expliquer le titre. Corps du roi.
Corps du roi.
Corps du roi, ça vient d'un bouquin enfin, que vous connaissez peut-être, enfin les historiens connaissent beaucoup, qui s'appelle Les deux corps du roi, de Ernst Kantorowicz, qui est un grand historien allemand, enfin judéo-allemand nationalisé américain, qui s'est beaucoup intéressé à Frédéric II notamment, enfin bref, Stauffen, le vieux Frédéric II du Moyen-Âge. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Les deux corps du roi, qui part de l'idéologie royale, capétienne, et impériale et anglaise au Moyen-Âge, c'est le fait que le roi ne meurt jamais. Le roi est mort, vive le roi. Le roi a deux corps. Un corps putrescible, comme vous et moi, comme Thierry avec ses écouteurs.
Mortel.
Et un corps qui n'est pas mortel, c'est la royauté. Celui-ci, il le porte en même temps. Mais celui-ci ne meurt pas, passe tout de suite à l'héritier. Et j'ai fait sur la littérature la même chose, c'est-à-dire les écrivains ont deux corps, le corps de la littérature et le corps putrescible. Voilà, c'est une histoire bétasse, mais pas si bétasse que ça, parce que vous parliez de liberté tout à l'heure, et leur part de liberté, est-ce qu'elle est du côté du corps putrescible ou du côté du corps du roi? Je ne sais pas, je crois qu'elle est du côté du corps putrescible. Il faut quand même que la littérature soit incarnée dans un corps putrescible pour rebondir, pour pleurer, pour chanter. Sinon, ça ferait la littérature toujours pareille, comme fait l'ordinateur. La belle littérature, sûrement, mais pas la littérature. C'est ça qui m'intéressait, dans ce livre. C'est pour ça aussi que j'aurais voulu parler d'Artaud, qui lui avait un corps, et qui voulait avoir un corps, qui n'en avait pas, mais qui voulait tant avoir un corps. J'aurais dû. Là, c'est un grand regret.
Dans un autre livre, peut-être.
Si les éditeurs n'étaient pas si pressés. Mm. Les éditeurs sont pressés. Il faudrait que je fasse un livre tous les 7 ans. Tous les 7 ans, c'est beaucoup trop. S'il m'avait donné 9 ou 10 ans, j'aurais mis Artaud dans cet ensemble. Bref. Donc, oui, je parle de la liberté des gens qui écrivent et de ce qui n'est pas leur liberté. Les deux sont bien. Il faut qu'ils soient libres, mais pas trop non plus. Il faut qu'ils aient un corps, mais qu'ils n'oublient pas que ce corps appartient à la littérature. Mmh. Voilà ce que je me suis efforcé de faire. Et dans le texte sur Hugo, je parle de beaux endormis, certes, mais je parle de mon corps.
Bien sûr. Mais c'est aussi... Oui, c'est toujours ça. Vous arrivez à partir de
pas toujours,
des autres,
enfin de prendre un appui.
Oui, c'est vrai.
Je parle d'eux. Je crois parler d'eux, en tout cas. Oh, sur Beckett, je ne dis rien. Sinon,
non,
il est beau.
Il arrive. Il est,
sinon,
il
qu'il est beau, qu'il règne, qu'il est parfait.
Qui ouvre. C'est comme s'il nous recevait dans le livre.
Oui.
Il est l'hôte. Mais dans cette expression violente liberté qui est la vôtre, hein, qui est une expression qui est dans vos livres, il y a toujours cette double explosion comme ça de la phrase qui a l'air classique et qui est en même temps inattendue, toujours, depuis toujours, depuis Les Vies minuscules. Et vous avancez en inventant encore, hein. Il y a toujours, bon, on dit toujours, Pierre Michon n'écrit pas assez. Est-ce qu'il écrit en ce moment? Il y a une mythologie autour de vous. Et en même temps, vous apparaissez régulièrement et le chemin est encore nouveau. Enfin, il y a...
À ma mesure, sûrement. Mais pour beaucoup, enfin, quand je lis mes contemporains ou les autres, on fait tous pareil, enfin pas pareil, on fait tous avec notre tempérament, on brode de l'idiosyncrasique sur du littéraire, quel qu'il soit. Là, les gens que j'ai pris pour ce livre, enfin Beckett, Flaubert, un écrivain arabe du XIIe siècle ou XIIIe, Hugo et Faulkner, ont tous bricolé la langue de façon superbe, mais tous auraient pu s'entrelire. Il n'y a pas de... La littérature a ceci de bien qu'elle doit être lisible. Donc, elle est faite pour l'humanité de Sumer à maintenant. Moi, je suis sûr qu'un type du temps des pyramides... Évidemment, il aurait fallu une histoire des États-Unis d'Amérique, ça, il aurait fallu qu'il se mette au courant des techniques et tout. Il aurait pu lire Faulkner, sans problème. Au bout de 5 ans de boulot, doc. Ah ouais, d'accord, ils avaient mis une bombe atomique, ça s'appelait ça. On ne sait pas bien ce que c'est comme les histoires de Borges sur Averroès. Une bombe atomique, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça faisait du mal. Et il pouvait le dire. Et d'ailleurs, il pouvait lire les histoires d'esclavage. Non, non, la littérature a ceci de bien qu'elle est coextensive à l'humanité. C'est du langage. C'est du langage porté au point de chauffe qui est ce qu'on appelle l'œuvre d'art. Mais c'est du langage. Je ne vois pas pourquoi on fait la différence entre communication, expression ou choses comme ça. C'est quand même un peu de la communication. C'est quand même un peu des trucs qu'on leur donne à... qu'on se donne les uns les autres à lire, à entendre, à écouter. Et les corps du roi, pourquoi j'ai pas mis un scribe de la 17e dynastie? Pourquoi j'ai pas mis Moïse? Et moi, je suis idiot. Voilà. Si on vivait 200 ans, si on vivait 200 ans, je l'aurais fait.
Oui. Ou si on rêvait parfois d'écrire un livre immense. Enfin, où vous un livre. Vous savez, à un moment, vous dites aussi à propos de Flaubert qu'il a bricolé un cadran où tout est visible. Hein. Oui. Le livre où on pourrait tout mettre, tout arriverait comme ça.
C'est... Je n'en rêve plus. Oui. J'en ai rêvé beaucoup étant jeune, mais je n'en rêve plus. Ou bien si j'en rêve, c'est. Si j'en rêve encore, mais je rêve d'écrire des petites histoires. On parle à l'intérieur des livres interminables, comme les histoires de Borges, comme Les Îles de Sable, ou comme ça, j'aurais aimé. S'il y a quelqu'un dont j'aurais aimé écrire les textes de mes contemporains, c'est Borges. Il y a là une sorte de... Borges m'empêche beaucoup. Il m'empêche beaucoup, parce qu'il y a des domaines dont je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler de labyrinthe, je ne peux pas parler des Danois, je ne peux pas parler de l'Espagne. Borges l'a fait. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas être un peu fantastique. Borges l'a fait.
Oui, mais c'est à partir de ça que vous pouvez écrire, justement, comme vous l'avez fait sur Rimbaud, comme vous l'avez fait sur...
Et pourquoi je n'ai pas fait un texte sur Borges?
Oui, mais il n'est pas trop tard encore, Pierre Michon. Non,
Borges, Artaud...
Et Flaubert, vous trouvez qu'il était trop sérieux?
Flaubert m'a fait du mal, personnellement. Il m'a fait croire un moment, pendant longtemps dans ma vie, qu'il fallait pour écrire ne pas vivre. Il m'a fait du mal. C'est un chantage. Parce que Flaubert, au contraire de Baudelaire dont je parlais tout à l'heure, n'était pas malheureux. C'était pas un homme malheureux, Flaubert. Il était très bien. Il virait les femmes, c'est son problème. Il était bien. Il s'ennuyait un petit peu. Il est mort d'ennui.
Vous croyez ?
Il est mort parce qu'il ne pouvait pas finir Bouvard et Pécuchet.
Il est mort au milieu de son...
Oui. Au milieu. Il ne faut pas dresser les catégories les unes contre les autres. Pourquoi dresser la catégorie littéraire contre, je sais pas quoi, contre la filiation ou la vie simple. C'est idiot, ça n'a aucun sens. Et quand même, toute la littérature de notre siècle est imprégnée de la pose flaubertienne, qui est celle-ci, qui est le sacrifice. Bien sûr, il faut des sacrifices. Je l'ai dit avant-hier, ou je sais pas quand. Il faut des tas de sacrifices, mais il faut pas non plus nous faire croire que c'est Saint-Laurent sur le grill. Flaubert n'a jamais été Saint-Laurent sur le grill.
Et quand on lit tous vos livres, on voit bien que la peinture aussi, les peintres ont été aussi comme des pères. Vous êtes entré aussi dans les phrases, dans les façons de raconter, dans l'invention justement du récit à partir de la peinture. Hein. Il y a Watteau, il y a Claude Lorrain, il y a Goya, il y a Van Gogh avec Roulin, vie de Roulin.
Ah oui, la peinture. Ça m'a intéressé.
C'est fini maintenant, ça.
Oui. Non, ça m'intéresse toujours, mais...
Mais c'était une façon de trouver une là aussi, comme une entrée.
C'était une entrée, c'était une porte dérobée, oui. J'ai de plus en plus envie d'aller vers... je dis ça, c'est idiot, je dis ça, parce que en même temps, je fais un livre sur les écrivains, mais... d'aller vers le plus simple, vers le simple. C'est-à-dire que mes bouquins sur les peintres, mes plaquettes sur les peintres, mes infimes plaquettes sur les peintres, me semblent un peu, comment dire, entachées de culturel. Et donc, je m'en tiens à distance. J'aime mieux les histoires sur les abbés, par exemple, des choses qu'on ne connaît pas du tout... mais pas écrire sur des... En même temps, si, pourquoi pas, Elifort l'a fait.
Non, mais c'est pas du tout...
Malraux l'a fait. Non.
C'est pas du tout comme critique que vous avancez.
Oui, mais Walter Pater l'a fait.
Les abbés, le texte que vous venez de publier est complètement étonnant parce qu'il a... Il y a une langue qui arrive, on ne sait d'où, et un temps aussi où vous décrivez ces abbés. Les abbés sont de toute façon partout dans vos livres.
Oui.
C'est étonnant, oui, ça. Oui. Partout, depuis toujours.
Oui. Les abbés, c'est les clercs, c'est ceux qui perpétuent la littérature. Ceux qui perpétuent la littérature et qui la triangulent avec une instance supérieure. Ce qu'on ne fait plus. Elle manque de triangulation. La littérature n'est faite que de plus en plus avec nos vies, nos désirs, nos sans instance qui déciderait en dernier lieu si elle est juste ou si elle ne l'est pas. Mais ça, ça nous amène beaucoup trop loin parce que je ne sais même pas de quoi je parle. Enfin, je sais de quoi je parle, mais je ne sais pas en parler.
C'est-à-dire ?
Il faudrait un témoin, il faut un grand témoin à la littérature. Qu'il soit Dieu, qu'il soit... Mais Dieu, ça ne marche plus. Alors qu'est-ce qui peut marcher ?
Vous dites, on est la prose de Dieu et sa dérision, la perfection et son effondrement, le livre et le contre-livre. Le baiseur et le baiser, la vache et le merlin, et c'est...
Ouais, c'est sur Flaubert.
Mmh.
Oui, Flaubert, c'est passé
Dieu.
Aussi
pour,
Flaubert a évacué Dieu.
Ouais. Ouais. Vous, non.
Non. C'est bizarre, mais non. Je ne peux pas. C'est certainement une création, comment dire, une invention fantasmatique perverse de ma part, puisque je ne crois pas vraiment en Dieu. Mais quand j'écris, je m'efforce de penser qu'il y a un témoin absolu du langage. Un témoin absolu du langage. Voilà, je peux dire ça comme ça. Et ce témoin absolu du langage, on ne peut pas lui donner d'autre nom que Dieu. On ne voit pas qui c'est. Enfin, c'est...
Ou alors ciel, c'est l'espèce. Vous dites le ciel.
Ou c'est l'espèce. C'est peut-être l'espèce humaine. Là, je pense à la littérature contemporaine, là, enfin, ce qu'on fait en France et ailleurs. Il y a des choses que j'adore, mais c'est le cul-de-sac flaubertien, pour tous. Ils sont tout seuls avec eux, ils souffrent comme des chiens. Enfin, moi, je... Comme des chiens. Non, comme des hommes. Ils souffrent comme des hommes, mais ils n'ont pas ce recours en dernier lieu. Enfin, je pense à tous ces jeunes écrivains expressionnistes, si on peut dire, enfin, qui donnent la livre de chair vraiment à fond, enfin, qui ils sont passionnants, mais comment ils font? Comment ils font? Où est leur caution? Où est leur souffrance est bien plus forte qu'elle ne devrait l'être.
C'est ça, peut-être la violente liberté aussi. Alors, c'est
pour
cette...
eux, oui, mais non, c'est une violente oui. Liberté. Et forte et belle, forte et belle, mais...
Non, mais pour vous aussi, c'est d'avoir mis cette instance comme un écart aussi entre le monde et vous.
C'est-à-dire, oui, moi, je m'efforce d'être libre, mais pour employer des grands mots, je m'efforce aussi de me concilier Dieu. C'est des concepts qui n'ont plus cours, c'est bizarre de parler comme ça. Mais en moi-même, quand je parle en moi-même, je parle comme ça. Je ne peux pas remplacer l'idée de Dieu par une autre. Se concilier Dieu, c'est quoi? C'est se concilier l'espèce, la morale? La morale? Pourtant, je ne suis pas moral.
C'est en écrivant que ça, qu'il y a cette intervention aussi, non?
Oui. Quelque chose veille sur moi. Et me fait signe de ne pas... De ne pas trop me tromper. De ne pas trop tromper les gens, je ne sais pas.
Dieu comme un père absent, peut-être aussi, il y a ça.
Et le voilà toujours revenu, celui-là,
ça.
Oui.
Je ne sais pas.
Le voilà toujours
peut-être.
Là. Oui.
Parce que celui qui veille aussi peut être là sans qu'on le voie.
C'est la grande absence qui fait qu'on est présent. Si on est présent qu'à soi-même, et au lien social, on est absent. On est dans la contingence. Si quelqu'un vous regarde de loin, ou si vous le pensez, si vous le postulez, tout va mieux, on respire mieux. C'est pour ça aussi qu'il a fallu que je mette en scène, sur une scène quasi religieuse, ma parentèle. C'était une façon très pratique de garder les siens tout en s'en débarrassant. Maintenant, on ne peut plus se débarrasser des siens. Sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Sans Dieu. Appelons-le chocolat, comme dirait mon copain Bob. Appelons-le n'importe quoi. Mais on ne peut pas s'en sortir sans un grand tiers. Alors, pour moi, c'est peut-être... Non, c'est sûrement la littérature qui joue ce rôle. C'est la littérature. Mais qu'est-ce que la littérature? C'est bien Dieu, puisque c'est le langage humain à son point d'incandescence. C'est la même chose. Qu'est-ce que Dieu, sinon les tables, ou le langage humain au point où il foudroie la pierre? Oui. C'est marqué en humain, c'est pas marqué en divin. C'est marqué en humain. En humain, tu ne tueras pas. Sans ça, je vois pas ce qu'on peut faire. Alors évidemment, ça nous ramène dans des problèmes extrêmement contemporains sur les fondamentalismes et tout ça. On n'en sort pas.
On n'en sort pas.
C'est une sorte de boucle.
Je repense d'ailleurs à cette phrase que vous citez de Lamartine quand vous dites la poésie, enfin quand Lamartine dit « La poésie n'a été pour moi que ce qu'a été la prière ».
Et c'est beaucoup, c'est le principal.
Ouais. Donc qu'on appelle Dieu ou une chose symbolique ou un... un père absent ou un point du monde creux.
Toute bonne littérature de la prière, c'est-à-dire un dialogue avec le tiers absent. Mmh. Avec le tiers absent, mais relayable par la parole commune. C'est-à-dire, on peut le dire aussi à quelqu'un, on peut prier en commun. On peut faire des livres et les publier. Bien sûr, c'est de la prière.
Et cette affection pour les abbés que vous avez, Pierre Michon ?
Ah, c'est mon côté savant de la Troisième République. C'est-à-dire, je sais pas, je pense à l'abbé Breuil, par exemple, les abbés archéologues. Ce que j'aime dans la condition d'abbé, c'est au temps où ils étaient abbés fondateurs au Moyen-Âge, leur position de passeur de la littérature, et après leur position scientifique. Tout le début du siècle, et même maintenant, beaucoup de grands archéologues ou de grands historiens sont des dominicains. Les abbés, ça existe. Je crois que ça existe. C'est une des vieilles continuités de l'Occident. J'aime les continuités.
En tout cas, tous les abbés qui apparaissent dans votre livre, l'abbé Eble, et Hugues aussi, le frère Guillaume, sont tous placés là-bas dans l'an 976.
Par mais là, oui, vers l'an 1000.
Voilà, on sent que vous vous amusez aussi à prendre une date et à faire vivre tout ce monde.
C'est un livre que j'ai fait extrêmement rapidement, en 3 semaines. Dans une cure, médicale, à l'hôpital.
C'est venu comme ça, ce texte.
Oh ben non, j'avais un peu de documentation sous la main.
Oui.
Et je l'ai fait très vite, pour à la fois pour me justifier de je ne sais quoi, et pour faire un texte, parce que de temps en temps, il faut faire des textes. Mais comme, je vais vous dire, mon modèle, en fait, moi, c'est la légende des siècles. Des petites épopées, des petites histoires de notre temps, ou pas de notre temps, je m'en fous, mais des petites histoires qui nous fassent vibrer, qui nous fassent aimer la vie, qui nous fassent aimer ce qui nous reste de vérité, de morale, de je ne sais pas, ou d'immoralité, puisque mes abbés s'entretuent pour des femmes, je ne sais pas quoi. Mais enfin, ils ont des remords. Ils ont beaucoup de remords.
Entre la légende dorée et la légende des siècles, finalement. Oui. Et si vous lisiez Cibos, on n'a pas pu le lire hier, je ne sais pas si ça va être...
Oui, mais est-ce qu'on a le temps? On pourrait le lire demain, plutôt.
Bon, on va le laisser.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être alors, d'accord. On va rester donc sur ces...
Demain, on lira, on commencera par on cette commencera merveille, pas.
D'accord.
Beaux endormis. Ce sont des vers à réveiller un mort.
Alors à
quand
demain,
ils sont bien dit, mais je l'ai dit mal. À demain.
Merci Pierre Michon. Donc on peut se retrouver demain pour la suite, peut-être encore avec Beaux endormis. Je pourrais d'ailleurs lire cet extrait de votre livre. C'était l'été, c'était un texte d'été, l'été de juillet, celui des tilleuls et de la moisson. Pourtant, quand je lis Beaux, ce que j'entends sourdement, ce ne sont pas les cris d'enfants glanant le tilleul dans la cour de l'école, ni les bruits des faucheurs ou de la grande faucheuse mécanique. J'entends un autre moment de l'été, ce qui, en bruit de fond dans ma mémoire, scande les vers ou l'intervalle entre les vers, c'est le bruit des batteuses. À voix nue, par Colette Fellous, réalisation Bruno Sourcy.